Bonjour Monsieur Pitmal. Les élèves de la classe de CE1A sont très très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la radio du lycée français du Caire. Donc ils ont lu votre biographie et ils ont lu un de vos livres, Courageuse Maman Panthère. Et à partir de cela, il y a environ deux séries de questions. Il y a d'abord une série de questions sur votre vie lorsque vous étiez enfant. Et puis il y a une série de questions sur votre vie d'adulte.
Très bien, très bien. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Alors, c'est toi qui commence ?
Bonjour. Comment était votre maison quand vous étiez enfant ?
Ah, écoute, je peux te le dire parce que je n'ai eu qu'une maison quand j'étais enfant. J'ai toujours habité dans la même maison. Tu sais qu'il y a des gens qui déménagent. Moi, je suis toujours été dans un appartement qui était un deuxième étage et du haut duquel je voyais une gare de train, tu sais ? Je regardais passer les trains. Donc j'ai dû habiter dans un appartement toute mon enfance. Allez, à quel tour ?
Bonjour. Dans quelle école étiez-vous ?
Alors là, par contre, j'ai fait plusieurs écoles dans mon quartier. Je crois qu'elle s'appelait l'école Louis Blanc, l'école dans laquelle j'étais. C'était une école où c'était pas mixte. Il n'y avait, tu sais, quand j'étais petit, il n'y avait que des garçons. D'accord ? Il y avait les garçons d'un côté et puis les filles de l'autre. C'est simplement quand je suis arrivé en classe de quatrième que j'ai connu les filles et les garçons dans la même classe. Et encore, il n'y en avait que deux ou trois de filles, tu vois. Tandis que vous êtes ensemble, là, filles et garçons. Hein, c'est mieux, non?
Oui.
Hein, nous, on n'était que des garçons.
Bonjour. Comment était votre école?
Comment était mon école? Tu sais, c'était une école. Moi, je suis né dans le Midi de la France. C'était une école comme dans toutes celles du Midi de la France, c'est-à-dire avec une grande cour et des platanes et des marronniers à l'intérieur de la cour. Tu vois, donc ça, peut-être qu'elle n'était pas si grande que ça, mais dans mon souvenir, comme j'étais petit, c'était une école avec, je te dis, une très grande cour. Voilà, c'est de ce dont je me souviens.
Bonjour. Comment vous avez-vous appris à lire vite?
Est-ce que j'ai appris à lire vite? Pas tellement, parce que si tu veux, j'ai été malade à l'âge du cours préparatoire. Donc j'ai passé 3 mois où j'étais allongé dans un lit et je ne pouvais pas aller à l'école. Donc c'est vrai que j'ai appris à lire, mais en même temps, il m'a manqué un peu des bases, des choses, tu vois. Donc après, j'ai eu un peu de mal quand même. Tu vois, je sais pas comment te l'expliquer. On va dire que je suis passé en classe supérieure, mais il me manquait des choses que j'avais pas bien appris et que j'ai eu beaucoup de mal après à rattraper. Hein, tu vois, même si j'aimais lire, je crois que j'avais bien appris à lire, mais peut-être pas bien à écrire, ce qui n'est pas la même chose. Hein, d'accord.
Bonjour. Quelle activité préfériez-vous quand vous étiez enfant?
Quand j'étais enfant, quelle activité je préférais? Je crois qu'à partir de 6-7 ans, ça a été la lecture. J'aimais beaucoup lire. Justement parce que, comme je t'expliquais, je suis resté malade longtemps allongé dans un lit. Et moi, quand j'étais petit, allongé dans un lit, à part lire, on ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que les Game Boy n'existaient pas, les Wii n'existaient pas, les ordinateurs n'existaient pas. Il n'y avait même pas la télévision dans les maisons. Donc pour un enfant petit, comme moi, qui restait malade assez longtemps, il n'y avait qu'une chose que je pouvais faire, c'était de lire ou alors de jouer avec des cubes, avec je me souviens que j'avais un château fort en bois, quoi, hein, qu'on assemblait, tu vois, mais à part ça, j'avais pas grand chose pour jouer. Donc je lisais beaucoup. Hein, je lisais beaucoup.
Bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Aviez-vous eu 100 lignes à copier lorsque vous étiez enfant?
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas été très sage. Hein. À partir, on va dire, du cours moyen, tout ça, même avant CE2, CM1, CM2, j'ai pas été sage du tout. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de lignes à copier. Mais l'école de mon enfance était une école beaucoup plus dure que celle que vous vivez, vous. Hein. Il suffisait qu'on fasse un peu quelque chose de travers et on avait de suite des lignes à copier, où on était mis au piquet derrière le tableau. des fois même à genoux par terre sur une règle pour que ça nous fasse bien mal au genou. Donc c'était quand même une école qui était plus dure. Vous connaissez pas ça, vous. On vous met pas à genoux sur une règle, hein. Tandis que nous, dès qu'on parlait un peu, dès qu'on faisait quelque chose un peu de travers, on était punis. Et comme moi, j'étais assez turbulent, j'ai été beaucoup puni. J'ai même retrouvé, ça va vous amuser, j'avais tellement de lignes à copier que j'en faisais d'avance. Quand j'avais du temps de libre, je faisais des pages, j'avais marqué « Je ne parlerai pas en classe, je serai sage, je n'embêterai pas mes camarades ». Et j'ai retrouvé un jour une liasse comme ça d'une cinquantaine de pages de punitions que je me faisais par avance, d'accord, pour pouvoir être prêt quand on me les donnerait. Allez.
Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de lire ?
Comment j'ai eu l'idée de lire ? Oh, l'idée, c'est tout simplement par l'école. Hein. Si tu veux, c'est l'école qui m'a donné les premiers livres à lire. Après, mes parents, de temps en temps, m'achetaient des livres, puisque j'aimais bien justement les livres d'Indiens, tout ça. Mes parents m'en achetaient et je les lisais. Mais au départ, l'idée, elle m'est venue, le désir m'est venu... De l'école, et puis de voir mes parents lire aussi. Je voyais mes parents lire, donc le fait de voir mes parents lire me donnait envie moi aussi de lire, tu comprends ?
Pourquoi jouiez-vous au pot rouge ?
Ah, pourquoi je jouais au pot rouge ? C'est vrai que quand j'étais enfant, on jouait beaucoup aux Indiens. C'était un peu la mode, hein, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de films qui passaient, qui étaient ce qu'on appelait des westerns, c'est-à-dire des films avec des cow-boys et des Indiens. Et mon papa s'occupait de cinéma. Donc moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films dans mon enfance. Et mon papa adorait les westerns. Donc du coup, j'adorais moi aussi les westerns, donc des histoires d'Indiens. Et quand on était avec mes frères dans la nature, dans la campagne, eh bien, on jouait aux Indiens et aux cow-boys. Mais peut-être que vous y jouez encore, non ? Il n'y en a pas qui jouent encore aux Indiens et aux cow-boys ? Hein ?
Si, moi, j'ai des déguisements.
Bon.
Comment avez-vous attrapé la lecturite ?
C'est vrai que je dis toujours que j'ai attrapé la lecturite, la maladie des enfants qui lisent tout le temps, hein, qui sont des passionnés de lecture. Je crois que c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que je sois resté malade, allongé dans un lit pendant plusieurs mois, et que bah, du coup, la seule façon pour moi de m'évader de la chambre, hein, quand on est allongé dans un lit pendant 3 mois, on s'embête un peu. Donc la seule façon pour moi de m'évader du lit, c'était de lire des histoires, de lire des contes, de lire des histoires d'Indiens. Ça me permettait de voyager. Quand on lit, on est ailleurs. Ça vous le fait, à vous aussi. Hein, hein, on a l'impression que... si je lisais l'histoire de Croc-Blanc, par exemple, j'avais l'impression d'être dans le Grand Nord avec les chiens de traîneau. Vous voyez, ça me permettait de m'évader. Je crois que c'est ça qui m'a donné la maladie de la lecture, parce que je suis quand même un malade. Hein. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis presque un livre par jour. Hein. Donc, je suis quand même une machine à lire. Hein. Il y a des machines à laver. Il y a des machines à lire. Allez, à qui le tour ?
Êtes-vous marié ?
Est-ce que je suis marié ? Oui, je suis marié et j'ai 2 filles. Mais c'est 2 grandes filles. Tu sais, maintenant, moi, j'ai 56 ans. Donc, mes filles, elles sont grandes. Hein. Il y en a une qui est à l'université et une qui est... Ben, les deux. Hein. Non, une qui est à l'université, une qui a fini l'université et qui commence à travailler. Donc, c'est des grandes. Hein.
Bonjour.
Qu'aimez-vous manger ?
Qu'est-ce que j'aime manger ? Ah, c'est une bonne question. Quand j'étais petit, j'ai adoré ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a le plus élevé, on va dire. Et ma grand-mère était d'origine italienne, donc elle me faisait que des plats italiens. Donc ma passion, c'est tout ce qui est cuisine italienne. Si tu veux me faire plaisir, il faut me faire manger des macaronis, des spaghettis, des lasagnes, des gnocchis, tu vois. J'aime tout ce qui est la cuisine italienne parce que ça me rappelle... Ça me rappelle qui ? Ma grand-mère, hein, d'accord ? Même les pizzas.
Bonjour.
Quelle classe avez-vous enseigné ?
Ah, après, c'est vrai, donc, quand j'ai fini mes études, j'ai été maître d'école. J'ai passé l'école normale, je suis devenu maître d'école. Et j'ai enseigné beaucoup, beaucoup à des enfants comme vous, en cours préparatoire et en cours élémentaire. J'ai appris à lire à beaucoup d'enfants. Ma passion, c'était vraiment d'apprendre à lire à des enfants. Donc, c'est cours préparatoire, CPC1 chez nous en France, hein, d'accord ?
Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous beaucoup d'élèves dans votre classe lorsque vous étiez instituteur?
Ben, quand j'enseignais en cours préparatoire, la plupart des classes étaient à peu près 25 élèves. Mais ça arrivait des fois de dépasser, oui, 26, 27, 28, des fois un peu moins. Mais la moyenne en France des classes pour des cours préparatoires, c'est 25 élèves et je trouve que c'est beaucoup. Il faudrait être un petit peu moins. Il faudrait être un petit peu moins parce que pour apprendre à lire, il faut avoir du temps. Il faut que vous ayez du temps de lire avec la maîtresse ou avec le maître. Voilà, donc j'avais 25 élèves à peu près, oui. À toi, mademoiselle.
Vos élèves étaient-ils chahuteurs?
Oh, ça a dépendu des classes, tu sais, j'ai enseigné dans plusieurs endroits. Hein. Quand j'ai enseigné dans un petit village, la plupart du temps, ils étaient plutôt sages et plutôt tranquilles. J'ai enseigné après dans des banlieues où c'était des fois des enfants qui étaient plus toniques, on va dire, hein, plus turbulents, qui avaient un peu des épingles sous les fesses, hein, qui avaient du mal à rester assis, hein, tu vois, qui avaient du mal à rester assis. Mais dans l'ensemble, en cours préparatoire, tu sais, les enfants, ils sont sages quand même. Hein, hein. On m'a jamais attaché un poteau de torture. Hein.
N'avez-vous pas mal aux mains à force d'écrire?
Non, parce que si tu veux, d'abord, moi, j'écris à la main une première fois, mais après, la plupart du temps, quand je travaille à l'ordinateur. Je me corrige, je me recorrige, je me re-recorrige à l'ordinateur. Donc ça fait moins mal aux mains. Quand je tapais à la machine, je me souviens, avant d'utiliser l'ordinateur, je tapais à la machine. C'est vrai, quand on tape à la machine, ça toc, 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 ça fait un peu mal aux doigts. Mais maintenant, les ordinateurs, on effleure les touches, hein, on appuie juste un tout petit peu et ça suffit, donc ça fait pas mal aux mains. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Victor Hugo ou à l'époque des écrivains classiques où il fallait écrire à la plume, ils avaient des fois mal au poignet, hein. Ils avaient ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain. Mais bon, moi c'est pas du tout le cas, hein, avec l'ordinateur. À toi, oui.
Est-ce difficile pour vous d'écrire des livres?
Non, je crois que bon. Des idées, j'en manque pas. Je crois que je suis quelqu'un de curieux, donc il y a souvent des idées différentes. Oui, je disais, des idées, je crois pas manquer. Je trouve pas que ce soit difficile parce que j'ai de l'entraînement. Ça fait longtemps que j'écris, tu vois. Mais pour faire quelque chose de bien, il faut quand même toujours recommencer, re-recommencer, re-recommencer. Mais j'ai l'habitude, ça me dérange pas de, quand j'écris une histoire, des fois de la recopier, de la corriger 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je sais que ça fait partie du travail si on veut aboutir à quelque chose de bien. Hein, tu vois?
Avez-vous écrit des bandes dessinées?
Ah, c'est vrai que j'ai écrit de tout. Normalement, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des contes, j'ai écrit des albums, j'ai écrit des livres historiques, j'ai écrit des livres fantastiques, j'ai écrit des poésies, j'ai écrit des comptines, j'ai écrit des chansons. Et finalement, assez peu de bandes dessinées. Je crois que j'en ai fait que 2 et j'aimerais bien en faire d'autres. Mais souvent, quand on écrit un album, par exemple, j'ai une série qui s'appelle Les Piccolos, ben, ça s'écrit comme une bande dessinée. C'est-à-dire que je dis à l'illustrateur ce qu'il faut qu'il dessine. Tu vois, donc c'est un peu comme une bande dessinée. J'écris le texte et puis je décris pour l'illustrateur ce qu'il doit dessiner. Hein. Mais j'aimerais faire un peu plus de bandes dessinées. C'est vrai que j'en ai fait trop peu à mon goût.
Bonjour. Êtes-vous déjà allé voir les Indiens d'Amérique?
Oui, alors je suis passionné par les Indiens d'Amérique, certainement à cause des films que je voyais avec mon papa, ces fameux westerns dont je vous parlais. J'ai gardé la passion des Indiens d'Amérique parce que ce sont toujours des personnages qu'on imagine droits, respectueux, pleins d'humanité. C'est ça qui me plaisait chez les Indiens d'Amérique. J'essaye d'y aller tous les 2 ans. C'est-à-dire, tous les 2 ans, je vais soit aux États-Unis, soit au Canada, et je vais dans une tribu différente. Parce que si vous voulez, les Indiens, on dit toujours les Indiens d'Amérique, mais c'est très vaste. C'est 40 fois la France, hein, les États-Unis et le Canada. Donc ça veut dire qu'il y a des Indiens qui vivent dans des glaces, il y en a d'autres qui vivent dans le désert, il y en a qui vivent sur les grands lacs, il y en a qui sont des pêcheurs, il y en a qui sont des cultivateurs, il y en a d'autres qui sont des chasseurs. Donc connaître les Indiens d'Amérique, ça veut dire aller dans des endroits très 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 différents, avec des tribus indiennes qui sont très 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 différentes. La dernière où je suis allé, par exemple, c'est à Vancouver, au Canada. Ce sont les Indiens, vous savez, qui font des grands totems qu'ils construisent. C'est un peuple de pêcheurs, pêcheurs de saumons, pêcheurs même des fois de baleines. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec les Indiens qu'on voit dans les films qui, eux, sont souvent des chasseurs de bisons. Hein. Donc voilà, mettez-vous en tête que les Indiens, c'est quelque chose de très très vaste et que l'image qu'on en a, souvent le chasseur de bisons à cheval, c'est une image un peu réduite, quoi. Hein. D'accord ?
Bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous eu l'idée d'écrire sur les Indiens ?
Alors, je te dis, c'est peut-être à cause de cette passion que j'avais depuis l'enfance. Et j'avais l'impression que l'Indien, je te disais, c'était quelqu'un de gentil, de courageux, de droit, d'honnête. C'est ça qui me plaît aussi chez les Indiens. Quelqu'un qui respecte sa parole donnée. Les valeurs de l'Indien, c'est toujours des valeurs spirituelles. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas ce qui s'achète, mais c'est ce que l'on est soi-même. Je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire des histoires d'Indiens. Après, une fois que j'ai bien connu le monde des Indiens d'Amérique, ça me permet aussi de l'utiliser comme un décor. C'est-à-dire, je peux raconter une histoire, par exemple, d'enfant boiteux, comme Petit Nuage, et je vais le mettre dans le monde des Indiens. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler d'un thème qui m'est important, le handicap, et au lieu d'en parler comme ça aujourd'hui, je le mets dans le monde des Indiens, comme ça l'histoire, elle est peut-être plus étonnante, ça donne un joli décor, les Indiens. Hein. Donc je n'écris pas des histoires d'Indiens uniquement pour écrire des histoires d'Indiens, j'écris des histoires d'Indiens aussi pour me donner un beau décor pour raconter une histoire d'enfant handicapé ou une histoire d'enfant qui est malheureux, d'enfant qui ne se sent pas comme les autres. C'est comme ça que j'utilise les histoires d'Indiens. À quel tour ?
Pourquoi avez-vous écrit sur les coutumes des Indiens ?
Alors du coup, après, bien sûr, je me suis passionné pour leur civilisation et j'ai découvert des choses étonnantes et j'ai eu envie de vous les faire partager. Par exemple, quand les Indiens faisaient la danse du soleil, qui était une danse où on se transperçait la poitrine avec des bâtons, hein, on s'attachait ces bâtons à un poteau et on dansait jusqu'à ce que ça s'arrache, hein, pour montrer son courage. Je trouve que c'est des choses que c'est important de vous le raconter, parce que c'est quand même des choses étonnantes, non ? Ou quand les Indiens, avant toute cérémonie, allaient s'enfermer dans ce qu'on appelle un inipi, c'est-à-dire une tente où on va faire brûler des pierres chaudes pour créer de la vapeur, un peu comme un sauna, et où on va passer comme ça des heures et des heures dans un sauna pour se purifier. C'est intéressant, je pense que c'est important de vous les raconter, toutes ces coutumes indiennes, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles nous étonnent. Mais le sauna, il y a beaucoup de peuples qui le font aussi, hein, qui font comme ça, qui se font suer. Hein. Vous faites suer des fois, en classe peut-être ?
Non.
C'est le sauna. Vous savez pas ce que c'est qu'un sauna ? Quand on verse de l'eau sur des pierres chaudes et ça crée de la vapeur. Et comme on est enfermé dans un endroit bien clos, eh ben on a la vapeur sur soi et on a très chaud et ça fait transpirer. Comme le hammam. C'est exactement comme le hammam. Hein? Donc les Indiens, ils connaissaient le hammam. À quel tour ?
Pourquoi avez-vous écrit sur les Indiens et non sur les cow-boys ?
C'est vrai que j'ai pas tellement écrit sur les cow-boys, parce que comme je te disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs spirituelles, c'est-à-dire les Indiens, donc qui respectaient le courage, ils respectaient le respect de la parole donnée, toutes ces choses-là, les valeurs spirituelles. Et c'est pas tellement le cas des cow-boys, puisque les cow-boys étaient là pour prendre le pays, pour s'installer. Donc ils se fichaient un peu pas mal de respecter leurs paroles. D'ailleurs, ils ne l'ont pas respecté. La plupart du temps, les chefs blancs n'ont pas respecté la parole donnée, tu vois. Donc c'est pour ça que j'écris plus sur les Indiens. Peut-être un jour j'écrirai une histoire de cow-boy. Mais qu'est-ce que ça veut dire cow-boy ? Ça veut dire garçon vaché, c'est-à-dire celui qui garde les vaches. Hein ? Celui qui élève des troupeaux de vaches. Il y a moins de choses à dire que sur les Indiens. D'accord ?
Êtes-vous déjà allé en Afrique ?
Alors oui, j'étais l'an dernier au Niger, où j'ai eu la chance de voir des girafes en liberté, ce qui est assez rare. Je suis allé au Sénégal, et puis je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Maghreb. Je passe presque 2 mois de l'année au Maroc, Hein. Puis je vais en Algérie, je vais en Tunisie, hein. c'est aussi l'Afrique. Hein. Mais le Niger, je t'avoue, m'a beaucoup étonné, parce que c'est quand même un pays où il y a encore des gens qui vivent dans des cases, hein, comme je croyais que ça n'existait plus. J'étais persuadé que c'était que dans les albums de Tintin ou de qu'on voyait encore des gens vivre dans des cases. Or, au Niger, c'est le cas. Hein. Et puis les girafes, il y en a encore. Tu te rends compte, il y a encore des girafes et des éléphants. Ils sont rares. Mais... Oui. Et les hippopotames. J'ai nagé à côté des hippopotames. C'est un peu dangereux, mais...
Avez-vous vu des animaux en Afrique ?
Alors oui, j'ai déjà un peu répondu. En Afrique, ce que j'ai beaucoup vu, donc, c'est des girafes. Beaucoup d'hippopotames aussi, puisqu'il y en a sur le fleuve Niger. Ça, il y en a beaucoup. Et c'est, tu disais tout à l'heure, à juste titre, que c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique, hein, beaucoup plus que même que l'éléphant ou même que le tigre, hein, puisque un hippopotame, il peut te couper en morceaux, il peut surtout te marcher dessus, il a des gros pieds, hein. des grosses fesses et des gros pieds. Après, c'est vrai que... Alors par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans les livres sur l'Afrique, on voit beaucoup d'animaux, mais qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça en Afrique. Hein. Il faut aller vraiment dans des régions bien particulières. Si vous allez en Afrique, ne croyez pas voir sans arrêt des éléphants, des tigres, des hippopotames. Il faut aller pour ça, malheureusement, dans des réserves. Et je crois que les enfants africains ont souvent vu moins d'animaux que ceux que vous avez vus, vous, parce que vous les avez vus dans des zoos. Un enfant africain, souvent, il a très peu vu d'animaux, à part ceux qu'il a tout près de chez lui. Mais ne croyez pas qu'il vit entouré comme d'un Kirikou. Ça, malheureusement, Kirikou, c'est du conte. Hein. C'est pas du tout de la réalité. Hein. Voilà. Mais j'aime beaucoup les animaux.
Avez-vous beaucoup voyagé ?
Alors oui, j'ai la chance de justement comme ça, quand je viens vous rencontrer, d'aller dans des pays et de voyager, ça oui, j'ai beaucoup voyagé donc en Afrique, beaucoup voyagé en Europe, mais et jamais en Asie par contre. C'est pas quelque chose qui me tente. Je suis beaucoup plus intéressé par tout ce qui est la civilisation de la Méditerranée, hein, la Turquie, la Syrie, tous ces pays-là m'intéressent, beaucoup moins l'Asie. Je crois que, tu vois, je mourrais sans être allé en Asie et ça ne me pose pas de problème, tu vois. Hein. En plus, maintenant, avec ce qui se passe au Japon, ça me donne encore moins envie d'aller en Asie. Hein. Mais par contre, tout ce qui est Moyen-Orient, tout ce qui est civilisation de la Méditerranée, ça me fascine, tu vois. On a des passions comme ça. Hein. Ah, j'aimerais bien aller quand même un peu plus en Amérique latine, hein, puisque je vais au Canada, aux États-Unis. Mais j'aimerais beaucoup aller au Mexique, tu vois, au Paraguay, au Guatemala. Ça, oui, j'aimerais y aller. Plus de questions ? Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire ?
Oui.
Oui ? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Puisque vous voulez une histoire d'Indien, je vais vous raconter une histoire d'Indien. J'en connais pas beaucoup, mais je connais un conte indien que j'aime beaucoup, qui est un conte qui vient... Du Canada. Les Indiens du Canada racontent qu'il y avait un géant terrible et que ce géant, il tuait tout le monde, il tuait tous les guerriers. Et le problème, c'est qu'on ne savait pas comment s'en débarrasser, parce que pour s'en débarrasser de ce géant, il fallait lui percer le cœur et il n'avait pas le cœur à la place habituelle et on ne savait pas où était son cœur. Donc tous les guerriers qu'il affrontait n'arrivaient pas à le tuer. Et un jour, il y a un guerrier qui a été plus malin que les autres. Il a dit, vous allez voir, moi, je vais trouver comment savoir où est son cœur et comment lui percer le cœur. Il s'est allongé sur un chemin et il a fait comme s'il était mort. Alors, quand le géant est passé, il l'a trouvé par terre. Il a dit, ah chouette, j'ai même pas besoin de chasser les hommes, il meurt tout seul. Il l'a pris, il l'a mis sur son dos et il l'a amené à sa cabane. Quand il est arrivé à sa cabane, il a posé l'Indien. Et puis, il est sorti à l'extérieur parce qu'il voulait prendre du bois pour faire cuire le guerrier. Le guerrier, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que dans la maison du géant, il y avait un gros couteau. Il s'est emparé du gros couteau. Et juste à ce moment-là, il y a le fils du géant qui est sorti. Il a attrapé le fils du géant et lui a dit « Dis-moi où est le cœur de ton père, sinon je te tue. » Le fils du géant, il lui a dit, il a tellement eu peur qu'il a avoué, il a dit « Le cœur de mon père est dans son talon gauche. » Juste à ce moment-là, le géant repassait la porte. Qu'a fait le guerrier ? D'un grand coup de couteau, il a planté le couteau dans le talon gauche du géant. Et le géant, puisque c'était là où était son cœur, il est tombé raide mort, étendu. Il est tombé raide mort, mais il parlait encore. Et il a dit au guerrier, « Tu as beau m'avoir tué, vous les hommes, je vous poursuivrai et je vous mangerai jusqu'à la fin des temps. » Ah, le guerrier a dit, « On va voir ça. » Il a pris le corps du géant et il l'a coupé en petits morceaux avec son couteau. Puis quand il a eu bien coupé un petit morceau, il a dit, on va voir si tu nous poursuivras jusqu'à la fin des temps. Il a pris tous les morceaux, il les a fait cuire et il les a réduits en cendres. D'accord ? Il en a fait de la cendre. Et il est sorti à l'extérieur et il a pris cette cendre et il l'a jetée vers les airs en disant, on verra si tu nous poursuivras jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment-là, la cendre, les petits morceaux de cendre, le gros nuage de cendre qui montait vers le ciel, il y a une voix qui est sortie de ce nuage et qui a dit « Oui, les hommes, je vous poursuivrai jusqu'à la fin des temps. » Et de ces petits morceaux de cendre, c'est des moustiques qui sont venus piquer le géant et qui ont dit « Oui, je vous piquerai et je vous mordrai jusqu'à la fin des temps. » Et c'est comme ça, disaient les Indiens, que sont nés les quoi ? Les moustiques. C'est comme ça qu'ils expliquent l'origine des moustiques. C'est un géant qu'on a coupé en morceaux et qui continue encore à nous embêter, qui continue encore à nous piquer. Et si vous allez au Canada, vous verrez que les moustiques, ils sont gros, très gros. Même en Philippines aussi. Les Indiens les appelaient des maringouins. Ils disent pas les moustiques, ils disent les maringouins. C'est des gros, gros, gros moustiques et quand ils vous piquent, ils vous font vraiment une grosse boule sur la joue, d'accord ? Voilà, c'est une belle histoire pour expliquer l'origine des moustiques, non ?
Ouais.
J'espère qu'elle vous a fait peur, hein ?
Non.
Non ?
Non.
Voilà, ça fait un gros bouton. Une autre histoire ?
Oui.
Alors,
attraper un bouton.
Je vais vous raconter
une histoire
rigolote.
Ça s'appelle le dada.
Donc une histoire rigolote avec un personnage qu'au Maroc, en Tunisie, on appelle Jia ou Choa ou Goa et que en Turquie et en Iran, on appelle Nasreddin.
Nasreddin,
ah, j'adore. Nasreddin, voilà.
Ah oui, Nasreddin. Il est trop marrant.
Ça, je l'ai ça.
Fou un peu, hein. Le fou qui était sage. On raconte qu'un jour, Nasreddin, il avait un fils, et que ce fils, il ne voulait pas sortir parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui, il trouvait qu'il avait des boutons, tout ça, et ça l'embêtait. Et son père, donc, Nasreddin, lui dit, mais non, il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Et d'ailleurs, je vais te le prouver qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Demain, on va aller ensemble au marché. Le lendemain, ils partent au marché, et comme on est dans un pays arabe, ils y vont avec l'âne au marché. Et c'est le fils de Nasreddin qui monte sur l'arbre, et c'est le papa, Nasreddin, qui tire la corde. Et ils arrivent comme ça au marché. Et les gens du marché, quand ils voient ça, ils disent « Mais quelle honte ! Ce petit garçon qui est sur l'âne, alors que son vieux père marche à pied, vraiment, les enfants n'ont plus de respect pour les personnes âgées. » Et Nasreddin lui dit, tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Demain, on reviendra au marché. Le lendemain, ils reviennent au marché, mais cette fois, ils font le contraire. C'est-à-dire que c'est le papa Nasreddin qui monte sur l'âne et c'est le petit garçon qui marche à pied. Ils arrivent au marché et là, il y a toujours les mêmes gens qui sont assemblés à l'entrée du marché. Et quand ils les voient arriver, ils disent, mais quelle honte ! cet adulte qui est monté sur l'âne, alors que son petit garçon qui a de petites jambes marche à pied. Vraiment, les pères maintenant n'ont plus de respect pour leurs enfants. Nasreddin lui dit, t'as entendu ce qu'ils ont dit ? Demain, on reviendra au marché. Le lendemain, ils reviennent au marché, mais aucun des deux ne monte sur l'âne. Et ils arrivent au marché en tirant l'âne par la ficelle. Et il y a toujours les mêmes gens qui sont assemblés. Et quand ils les voient, ils disent, mais regardez-moi ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils n'y montent pas dessus. Nasreddin lui dit, tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Demain, on reviendra au marché. Le lendemain, ils reviennent au marché et ils montent tous les deux sur l'âne. Ils arrivent au marché, tous les deux, en chevauchant l'âne. Et là, il y a toujours les mêmes gens assemblés qui disent, mais ils sont fous ! Ils ont un âne, ils y montent à deux dessus, ils vont le tuer, vraiment, ils n'ont aucun respect pour les animaux. Nasreddin dit, tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Demain, on reviendra au marché. Et le lendemain, ils reviennent au marché et ils portent l'âne sur les épaules. Et là, il y a tous les gens assemblés qui disaient, mais ils sont fous, ils ont un âne et c'est eux qui le portent sur les épaules. Alors Nasreddin dit à son fils, tu vois, de toute façon, les gens, ils ne sont jamais contents. Tu as beau faire ce que tu veux, de toute façon, les gens, ils ne seront jamais contents. Alors, tu fais ce que à toi, il te plaît, et puis ça suffit comme ça. Et voilà comment il a expliqué à son fils qu'il fallait dans la vie ne pas trop tenir compte de l'opinion des gens qui souvent ne sont pas d'accord quand on a envie de faire quelque chose de bien. Elle est sympa celle-là, hein ? Vous en connaissiez d'autres de Nasreddin ?
Oui, il y en a une qui est trop marrante.
C'est laquelle ?
C'est quand il est petit et il y a sa maman, elle lui dit Nasreddin reste à la maison et je pars au marché et ne quitte pas la porte de la maison. Et après, il veut voir sa maman, il arrache la porte et il va au marché avec la porte et sa maman, elle dit. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et lui, il répond, mais t'avais dit de jamais quitter la porte de la maison.
Ouais, ouais. Elle est bien celle-là, oui. Tu connais une autre ?
Oui, et une fois, Nasreddin, quand il était adulte, il a...
Vas-y, pouvoir.
Il prend la casserole et le lendemain, elle le rend la casserole, mais avec une autre casserole.
Il dit, elle a fait un bébé, je te le donne, elle a fait un bébé. Alors la dame, elle est contente, hein, elle est contente à ce moment-là. Et il lui re-emprunte cette fois une très grosse marmite. Et il ne la lui rend pas. Alors elle vient la chercher. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là ? Il lui dit, ah, je suis désolé, mais ta marmite, elle est morte. Alors la dame, elle lui dit, mais attends, c'est pas possible, une marmite, ça meurt pas. Et il dit, écoute... Tu as bien cru que la casserole, elle avait fait un bébé. Alors, si tu as cru que la casserole avait fait un bébé, tu peux croire que la marmite, elle est morte. Voilà. Est-ce que vous connaissez celle des éventails ? Alors, Nasreddin, écoutez bien, il était marchand d'éventails. Alors, il y a un monsieur qui arrive et il est très radin, c'est-à-dire qu'il n'aime pas dépenser son argent. Alors, il demande un éventail et Nasreddin lui dit, eh bien, écoute, prends celui-là. Il vaut 10 livres. Ben, le monsieur lui dit 10 livres pour un éventail, mais tu es un voleur. Alors Nasreddin lui dit, écoute, prends celui-là, il ne coûte que 5 livres. 5 livres, mais tu m'arraches le cœur. Nasreddin lui dit, prends celui-là, il vaut que 2 livres. 2 livres, mais c'est encore trop cher pour un éventail. Nasreddin lui dit, prends celui-là. Il vaut une livre. Une livre, tu es un voleur, Nasreddin. Mais bon, il prend l'éventail et il l'achète. Il s'en va à sa maison, il se sert de l'éventail et l'éventail se casse. Alors il revient en colère voir Nasreddin et il dit à Nasreddin, mais Nasreddin, tu es un voleur, tu m'as vendu un éventail et à peine je m'en suis servi, il s'est cassé. Alors Nasreddin lui dit, attends, il faut d'abord que tu m'expliques comment tu t'en es servi. Et Nasreddin dit, le monsieur lui dit, comme tous les éventails, j'ai fait comme ça. Et Nasreddin lui dit, non, avec un éventail à une livre, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Il faut remuer la tête. Pour pas qu'il se casse.
Ouais. C'est Nasreddin. Il est adulte et il est dans son lit. Et après, il y a sa femme qui entend un gros bruit pendant la nuit. Et le lendemain, elle dit à Nasreddin, Nasreddin,
qu'est-ce qui
s'est passé pendant la nuit? Et il dit,
il dit, c'est rien, c'est Majel là-bas qui est tombé.
Et après, elle dit, mais pourquoi elle a fait si de bruit? C'est autant de bruit. Et lui, il répond, parce que j'étais dedans.
Il y a une fois où Nasreddin aussi, il y a un monsieur qui toujours lui dit, tu sais, il faut que tu te lèves tôt, Nasreddin. Et Nasreddin, il ne veut pas se lever tôt. Et alors un jour, ce monsieur qui se lève tôt, sur le chemin, en se levant tôt, il trouve une pièce d'or. Alors il va trouver Nasreddin et il lui dit, tu vois qu'il faut se lever tôt. Regarde, ce matin, moi, je me suis levé à 6 heures et sur le chemin, j'ai trouvé une pièce d'or. Ça prouve qu'il faut se lever tôt. Et Nasreddin dit, mais malheureux, si toi, à 6 heures, tu as trouvé une pièce d'or, celui qui l'avait perdue, il s'était levé avant toi. Vous avez compris? Alors, il faut pas se lever tôt. Bon, allez, la dernière alors. La dernière, il veut que je lui raconte celle avec les ânes. Allez, vous y êtes? Alors, Nasreddin, cette fois, il vend des ânes. Donc, il part au marché avec ses 10 ânes. Et bien sûr, il monte sur le premier des ânes et il va comme ça jusqu'au marché. En chemin, tout d'un coup, il se dit, mais faudrait pas qu'il y ait un de mes ânes qui se soit échappé. Alors, du haut de l'âne sur lequel il est monté, il compte derrière lui les ânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a un qui s'est échappé. Alors, il descend de l'âne, il va chercher partout dans la campagne, il ne le trouve pas, et puis il revient désespéré vers son troupeau, et là, il se dit peut-être qu'il est revenu, et il regarde, il compte les ânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est revenu. Il monte sur l'âne, le premier des ânes, et il reprend de nouveau sa course vers le marché. Toc, 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 toc. Au bout d'un moment, de nouveau, il a un doute. Il se dit, faudrait pas qu'il y en ait un qui se soit échappé. Il se retourne, il regarde, il compte derrière lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il y en a encore un qui s'est échappé. Il descend de l'âne, il va chercher partout, il le trouve pas, il revient vers son troupeau, et là il regarde son troupeau, il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est revenu. Il est content, alors il arrive au marché avec ses 10 ânes, et là quand même, il pose la question au marchand, il lui dit, tu sais, je comprends pas du tout, parce que des fois, quand je comptais mes ânes, je n'en trouvais que 9, et puis après, quand j'allais le chercher et que je revenais, j'en trouvais 10. Alors, le marchand, quand même, qui est un malin, il lui dit, tu sais, moi, il lui dit, je crois qu'il n'y a pas 9 ânes, je crois qu'il n'y a pas 10 ânes, mais je crois qu'il y en a 11. Il veut dire, qui c'est le 11e?
Moi, je sais.
Il veut dire, c'est Nasreddin, le 11e. Hein?
Il a un bonnet d'âne.
Ouais, il 11. Et Nasreddin lui dit, ah bon? Il y a 11 ânes? Et le monsieur, il prend tout le monde à témoin, il se moque de Nasreddin, il dit oui, il n'y a pas 10 ânes, il y a 11 ânes. Et Nasreddin, il recommence, ah bon, il y a 11 ânes. Mais le monsieur, lui, il prend tout le monde à témoin, il dit oui, il y a 11 ânes. Alors Nasreddin, il dit, il y a 11 ânes, eh bien alors tu m'en payes 11. Vous avez compris?
Hein? Parce que c'était Nasreddin qui avait un bonnet d'ânes.
Oui, mais il est malin parce que finalement... Finalement, puisqu'il dit à tout le monde qu'il y en a 11, eh ben, il dit au marchand, tu m'en payes 11. Mais après, à la fin, il est malin quand même, parce que du coup, il demande qu'on lui en paye 11. Hein? D'accord? Alors, je suis content, vous connaissez les histoires de Nasreddin. Hein?